Là, on avait commencé l'année dernière la vie d'Élie. Et la vie d'Élie est vraiment très intéressante. Et malgré la distance par rapport à nous, hein, c'était donc Élie, ça fait 2700 ans à peu près. Mais le cœur de l'homme, comme je dis toujours, n'a pas changé. Et on va retrouver beaucoup de choses dans la vie d'Élie qui peuvent nous concerner nous aussi. Et quand Oscar disait ce matin, Dieu dit arrêtez, et ben justement, le passage d'aujourd'hui, c'est comment Dieu a arrêté Élie, comment Élie s'est arrêté lui-même aussi, et comment Dieu a pu lui parler parce qu'il s'est arrêté. Hein. Et c'est une histoire un peu dure, mais voilà, je vais juste refaire le contexte pour que voilà, ceux qui ne connaissent pas le contexte historique et le contexte de l'histoire d'Élie puissent se repérer, parce que c'est quand même il y a très longtemps. Hein. Donc, l'histoire, le contexte historique, c'est à peu près hein, plus de 100 ans après la mort du roi David. Ça vous donne déjà une idée. Moins 1000, c'est David. Donc, on va se situer grossièrement. Hein, je ne suis pas à 10 ans près, là. Mais grossièrement, voilà. Si on est à peu près 100 ans après la mort du roi David. Et donc, l'histoire d'Acab se situe à peu près dans les années 870. Enfin, voilà. Le peuple d'Israël, comme je vous ai déjà dit, était séparé en deux royaumes, mais bon, ils avaient quand même une certaine unité, le sentiment d'appartenir au même peuple, mais Israël au nord, Juda au sud, même peuple, mais divisé en deux. L'histoire d'Élie se trouve dans le livre des rois. Alors, il raconte l'histoire et la succession des rois depuis David jusqu'au dernier roi. Au moment où Israël a été déporté à Babylone, etc. Alors, c'est important parce qu'il y a quand même un gros problème dans le royaume du Nord, où Élie, justement, va opérer. C'est que, comme ils n'avaient pas envie que leurs habitants aillent célébrer l'Éternel à Jérusalem, eh ben, ils ont créé des autels. Bon, deux autels, un au nord, un au sud, Dan et Bethel. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi fait un veau d'or, en souvenir de la sortie d'Égypte, soi-disant, mais enfin bon, hein, c'était quand même déjà de l'idolâtrie. Dans notre récit, là, d'Élie, ce qui est important à savoir, c'est que le roi d'Israël, donc pas de Juda, hein, d'Israël, royaume du Nord, s'appelait Acab, et il s'était marié à une princesse sidonienne. Alors, Tyr et Sidon, c'était deux villes qui étaient au bord de la mer, au nord. Et le papa de cette dame était prêtre d'Astarté, qui était une divinité cananéenne très très respectée sur les bords de mer. Et puis elle était une fervente adoratrice de Baal. Alors Baal, c'était le dieu principal des Phéniciens, pour ceux qui ont fait les Phéniciens à l'école, là, ça va vous dire quelque chose, et des Cananéens. Alors, ce qui était curieux, c'est qu'il était dieu de la nature, du vent, de la pluie, tout ce qui était autour de la nature. Et vous allez voir que c'est important pour notre histoire. Et cette princesse s'appelait Jézabel, et elle ne tolérait pas les autres religions. Donc ça, c'est important parce que, bon, dans ces régions-là, il y avait aussi pas mal d'idolâtrie, mais bon, ils se supportaient plus ou moins les uns les autres. Jézabel, non. Et elle ne se gênait pas pour tuer les prophètes de Dieu, de l'Éternel Dieu d'Israël, et les rechercher et les faire tuer. Elle voulait vraiment que l'adoration de Baal s'installe. Alors, qu'est-ce qui précède notre récit sur Élie? Parce que là, on avait commencé Élie l'année dernière, donc on le prend à un autre moment de sa vie. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le nom d'Élie, déjà, veut dire « l'Éternel est mon Dieu ». Élie est un prophète de l'Éternel. Alors, c'est quoi un prophète? C'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. Dans la Bible, non. Dans la Bible, le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Occasionnellement, il peut dire il va se passer ça et ça, mais c'est pas le but. Le but du prophète dans la Bible, c'est parler de la part de Dieu. Et évidemment, c'est souvent des messages qu'on n'a pas trop envie d'entendre, parce que l'homme, naturellement, a envie de faire ce qu'il veut. Mais le but du prophète dans l'Ancien Testament et particulièrement dans le livre des rois, c'est tout le temps de ramener le peuple à l'adoration de Dieu. de leur dire arrêtez de marcher un pied sur le trottoir, un pied dans le ruisseau, hein, mais adorez l'éternel Dieu et pas d'autres dieux. Hein. Vous savez, vous connaissez ce verset, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. C'est un des commandements. Et pour les prophètes, c'était vraiment un souci parce que la tendance naturelle de l'homme était tout le temps de partager un petit peu. Alors, c'est important à savoir pour notre histoire que c'est pas que les enfants d'Israël avaient abandonné Dieu. Non, 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 ils y croyaient toujours. Dieu nous a sortis d'Égypte, il a répondu à nos prières, etc. Mais à côté, on adorait aussi Baal. Et quand il y avait une sécheresse, on préférait s'adresser à Baal puisque c'était le dieu de la nature. L'éternel Dieu, oui, il est dieu de tout, bon. Et puis, on a un problème, c'est que on ne représente pas l'éternel Dieu. C'est impossible de représenter le dieu de l'univers, le dieu tout-puissant. À côté de ça, les Baals, on pouvait les représenter. Il y a plein de petites statuettes, on en retrouve encore, hein. Dans les fouilles archéologiques, plein de petites statuettes d'Astarté et de Baal. Et puis au moins, voilà, on pouvait toucher, on pouvait voir. Évidemment, c'était des dieux totalement imaginaires. Et on va voir, c'est très, très important. Mais c'était quand même difficile pour les enfants d'Israël d'adorer un dieu qu'on ne voyait pas. On en voyait les effets, on voyait ce qu'il produisait, on voyait ce qu'il faisait. Mais on ne pouvait pas le dessiner, on ne pouvait pas faire des statues, etc. Ça, tandis que voilà, Baal, il y avait cet avantage, entre guillemets. Alors, donc Élie, comme j'ai dit, est prophète de l'Éternel. Et Dieu va l'envoyer vers le roi Akab. Alors, ce n'était pas très plaisant pour Élie, parce qu'il avait une mauvaise nouvelle de la part de Dieu. Il annonce au roi Akab, donc, qui était marié avec cette idolâtre, cette fervente idolâtre de Baal. Il va vers le roi Akab pour lui dire, maintenant il va y avoir une sécheresse qui durera jusqu'à ce que je, c'est-à-dire Élie, en demande la fin dans la prière. Donc, une sécheresse qui va durer jusqu'à ce que. Et vous voyez, la prédiction n'était pas, ça sera 3 ans, 2 mois, 8 jours, non. Jusqu'à ce que le prophète prie pour que la sécheresse s'arrête. Alors, ouais, c'est une calamité, hein, tout dans un pays chaud. Les Israélites savaient très bien, ils le savaient, c'était courant, ils lisaient régulièrement le Lévitique, les lois de Moïse, ils savaient très bien que servir d'autres dieux, ça entraînerait des problèmes, et entre autres, la sécheresse, la stérilité. Ah. Ils étaient avertis, ils le savaient, donc ils auraient pu comprendre, et se dire, oh, on va revenir à l'éternel Dieu. Ben non. Pourtant, dans ce récit, la notion de sécheresse, d'absence de pluie, prend une autre dimension. Puisqu'ils adorent moitié l'Éternel, à moitié Baal, eh ben, Baal étant le dieu de la nature, il est supposé être le maître des nuages et de la pluie. Ah. Donc quand Dieu dit « il y aura sécheresse », ce n'est pas un problème, puisque Baal, n'est-ce pas, est le dieu de la pluie et des nuages. Tout au moins, c'est ce qu'il disait. La sécheresse va durer 3 ans et demi. Ça veut dire que le cœur des enfants d'Israël était tellement endurci qu'ils n'ont pas quitté l'adoration de Baal. Il y avait l'Éternel, puis il y avait Baal à côté. Pourtant, Josué leur avait dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous vous souvenez, Josué, hein, après Moïse, il avait vraiment insisté. Choisissez aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez. Mais non, ils n'arrivent pas à choisir. Alors bon... 3 ans et demi de sécheresse, c'est énorme. Et je voudrais bien qu'on comprenne aussi que ce n'est pas une punition. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit « vous êtes tous des vilains, vous êtes tous des méchants, je vais vous punir ». L'idée, ce n'était pas de les punir. L'idée, c'était de les faire revenir au seul vrai Dieu et d'arrêter d'adorer des statues en bois, en fer, en bronze, etc. Donc, il faut toujours bien garder ça à l'esprit. Parce que si on prend ça comme « ah, c'est un Dieu qui punit le père Fouettard », mais non! Il voulait, quand la Bible dit Dieu est un Dieu jaloux, hein, c'est Ruben qui en parlait il n'y a pas très longtemps, jaloux, non pas dans le sens de jalousie maladive, mais il sait ce qui est le meilleur pour nous, et ça lui fait vraiment mal au cœur de nous voir nous plonger dans l'adoration de tout un tas de trucs qui n'existent même pas. Hein, leurs idoles ne sont que du vent, et à la fin, ils ne sont que du vent eux-mêmes. Et ça, Dieu ne veut pas. Donc, ce n'est pas une punition, c'est l'appel à un retour. Mais Akab et Jézabel et le peuple continuent à adorer Baal et à mélanger culte de Baal, culte à l'Éternel. À la fin, vous vous souvenez, Élie a été obligé de se cacher parce qu'Acab le fait chercher partout. Il veut absolument le forcer à prier pour que la sécheresse s'arrête. Voilà. Au lieu de dire, voilà, la solution, on l'a, c'est de revenir vers Dieu. Non, il va essayer de forcer Élie, l'attraper, le coincer pour qu'il prie pour que la sécheresse s'arrête. C'est un peu ridicule, franchement, mais bon. Alors Dieu va protéger Élie de façon incroyable. Il va l'envoyer près d'un torrent pour qu'il ait de l'eau. Il y avait encore quelques torrents qui fonctionnaient. Et puis, c'est des corbeaux qui vont lui apporter à manger. Vous vous souvenez, c'est quand même assez comique que Dieu utilise des éléments de la nature, en plus, à contre-emploi, complètement. Un corbeau, c'est voleur. S'il trouve, je ne sais pas si vous les voyez sur la route, dès qu'il y a un lapin écrasé, ils sont tous là à dépecer le truc pour le manger. C'est vraiment la nature du corbeau. C'est pas de donner. Et que les corbeaux apportent à manger à Élie, c'était vraiment un miracle. Et Dieu, je trouve que Dieu a de l'humour, honnêtement, utiliser des corbeaux pour nourrir Élie. Votre Dieu de la nature, là, votre idole de la nature. Il ne ramène pas la pluie. Et puis, moi, je peux même utiliser à contre-emploi des animaux. Ah oui, Dieu sait ce qu'il fait. Et puis, après, Dieu va l'envoyer. Il n'y a plus d'eau dans le torrent, donc Dieu va l'envoyer chez une pauvre veuve. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu ça l'année dernière. Pauvre veuve qui n'avait plus rien à manger, il lui restait juste un peu de farine et un peu d'huile. Et puis, il va lui demander de lui faire à manger, d'abord à lui, et après, avec ce qui reste, à son fils. Elle dit, mais bon, après, on n'aura plus rien, c'est fini. Mais bon, elle a conscience que c'est un homme de Dieu, elle va faire la priorité, le petit pain pour lui, et puis, elle fera ce qui restera, mais elle dit, ce sera notre dernier repas. Évidemment, quand elle est venue pour faire à manger à son fils, il y avait pas mal d'huile, il y avait pas mal de farine, beaucoup plus que ce qu'elle avait laissé. Et ça a duré comme ça, pendant des mois. Dieu a pourvu. Elle avait su mettre les priorités aux bons endroits. Une expérience encore de miracle. Peu de temps après, son fils meurt. Et là, c'était dur. Pourquoi ? Moi, j'ai hébergé un prophète. Là. Et pourquoi maintenant ça m'arrive à moi ? Et Élie est saisi de compassion. Il va prier pour son fils et son fils revient à la vie. Donc Élie, c'est tout ça pour vous remettre dans l'ambiance. Élie a vécu des miracles extraordinaires et il n'a pas fini. Alors que Dieu démontre l'infidélité du peuple et sa folie de se confier dans des faux dieux de la fertilité en plus, et lui, Élie, lui, il a montré qu'il restait dans une communion profonde avec son Dieu. Il reste dans l'obéissance, la foi et la confiance. Alors j'insiste là-dessus parce que ce qui va lui arriver après, ça va nous faire réfléchir. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des gens, même dans la Bible, qui aient manifesté autant d'assurance, autant d'obéissance, autant de confiance en Dieu, malgré un roi qui était complètement hostile et une reine qui rêvait de le tuer. Vient le jour où Dieu envoie Élie vers le roi Acab. On en était là. Bien sûr, la première action d'Acab, c'est toi qui attires le malheur sur le pays. Ben voyons, c'est tellement plus facile d'accuser le prophète au lieu de se dire peut-être qu'il faudrait qu'on revienne à Dieu. Alors curieusement, Élie n'a pas peur. Il parle de la part de Dieu et puis il répète à Acab que le fait d'abandonner le Seigneur pour suivre Baal, c'est bien la cause de la sécheresse. Et puis il va plus loin. Moi, c'est un courage, mais un courage. Il dit à Élie, maintenant, tu vas rassembler tout Israël. Donc les représentants, j'imagine, parce que sur le Carmel, quand même, il y avait de la place, mais quand même. Un rassemblement d'Israël au Mont Carmel. Puis tu vas me ramener aussi les 450 prophètes de Baal qui mangeaient à la table de Jézabel en pleine sécheresse. Ça veut dire qu'elle faisait venir de la nourriture, certainement, puisque son père était roi de Sidon, au bord de la mer, il y avait beaucoup moins de sécheresse. Elle nourrissait 450 prophètes de Baal. Il fallait vraiment qu'elle soit motivée. Et curieusement, Acab obéit. Eh bien oui, parce qu'Acab, c'est le type même. Un pied dans le ruisseau, un pied sur le trottoir. Il est tout le temps comme ça. Il n'arrive pas à choisir, justement. Donc, c'est un prophète de Dieu. Allez, bon, donc il obéit. Pourtant, il avait laissé sa femme massacrer les prophètes du Dieu d'Israël un petit peu avant. Mais il attend tellement la parole libératrice d'Élie pour que la sécheresse s'arrête. Il est prêt à tout pour que la pluie tombe. Et puis la confrontation a lieu. Élie, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Élie est face aux 450 prophètes de Baal et lui, il est tout seul. D'abord, il s'adresse au peuple. Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ? Quand je vous parlais de... Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, ben suivez-le. Si c'est Baal, eh ben suivez-le. Mais pourquoi tout le temps être à cheval sur les deux, hein? Et vous savez ce que le peuple a répondu? Ben, il n'a rien répondu. Parce qu'il n'a pas envie de choisir. Malgré la sécheresse. Quand même, 3 ans et demi de sécheresse. Eh ben, il ne répond pas. Élie demande aussi 2 taureaux. Un pour le sacrifice à Baal et un pour le sacrifice à l'Éternel. Et il dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Fallait oser, hein. Fallait qu'il soit sûr de ce que Dieu lui avait dit, hein. Moi, je n'essaierai pas, hein. Fallait qu'il soit vraiment sûr. Alors, il leur dit, mais allez, allez, choisissez les adorateurs de Baal, là. Allez, choisissez votre taureau, faites votre autel, sacrifiez votre taureau et puis demandez, surtout, vous ne mettez pas le feu, vous demandez à votre dieu Baal de descendre le feu du ciel sur l'offrande. Et il attend. Ça, c'était le matin. Arrivé à midi, je ne sais pas s'il a bien fait, hein, mais c'était irrésistible. Il dit, mais peut-être que votre dieu, il dort, ou il est parti en vacances. Enfin, il se moque un petit peu. Bon. Et puis les autres, du coup, ils crient encore plus fort. Et puis, ça va plus loin. Hein, ils se font des incisions pour faire couler le sang. C'est assez horrible. Et ben, il ne se passe rien, évidemment. Un dieu imaginaire ne peut rien faire. Il attend. Et puis à 3h, vers 3h, Élie commence à prendre les 12 pierres pour rebâtir l'autel. Apparemment, il y en avait un sur le Carmel, mais il l'a rebâti. Et il prie. Il prie. Et je pense qu'on va lire sa prière, parce que ça en dit long. C'est au chapitre 18 de 1 Roi, le verset 36. J'aime beaucoup cette prière. 1 Roi 18, 36. Au moment de la présentation de l'offrande, qui avait lieu au temple, hein, le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur. Et j'ai fait tout cela sur ton ordre. » Vous voyez, il a pas inventé, heureusement. Hein. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. » Vous voyez, le désir du prophète, ça a toujours été ça. « Que le peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu. » Il n'avait aucun intérêt personnel dans l'affaire. « Et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Tout ce qu'il voulait, c'est que le cœur du peuple retourne vers Dieu. Belle prière. Élie rebâtit l'autel. Il fait cette prière. Et puis, le feu descend sur l'autel. Le feu de l'Éternel tomba. Il brûla l'holocauste, c'est-à-dire le sacrifice, le bois, les pierres et même la terre. Et, ah oui, j'avais oublié, il avait mis de l'eau pour être sûr qu'on ne puisse pas l'accuser de tricher. 3 fois 4 cruches d'eau. Et comme ça, il était sûr qu'on ne lui dirait pas qu'il a trouvé un truc. Et il avala l'eau qui était dans le fossé, donc le feu était tellement fort que l'eau s'est évaporée. Et quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Enfin, c'est une belle victoire. C'est fou quand même cette confrontation. Élie, bien sûr, après, fait tuer tous les prophètes de Baal. Alors là, on est horrifiés, nous, au 21e siècle. Mais il n'y a encore pas longtemps, en France, il y aurait eu la peine de mort pour ces gens, puisqu'ils faisaient des sacrifices d'enfants. N'oubliez jamais ça. Parce que souvent, quand on lit, on dit « Oh, c'est dur, quelle intolérance !» Ah oui, on n'était pas plus tolérants. Hein. Bon, maintenant, ce serait la prison à vie, j'imagine, pour des gens qui sacrifient des bébés et des enfants. Mais il ne faut quand même pas oublier ça. Hein. Et que dans les prophètes, Dieu n'arrêtait pas de dire que c'est quelque chose d'horrible, qu'il ne supportait pas ce qu'on sacrifie. Des petits-enfants, on les brûlait devant les statues de Baal. Enfin, les archéologues ont retrouvé tout un tas d'ossements, etc. Donc voilà, Élie fait tuer les prophètes de Baal. Et le peuple semble avoir compris. C'est l'Éternel qui est Dieu, enfin! Du coup, Élie est en pleine forme, là. Alors là, c'est incroyable. Il envoie Acab manger et boire. Apparemment, Acab avait jeûné. Et il lui dit, il y a un grondement annonciateur de la pluie. Qu'il a entendu, apparemment Élie, mais les autres, je ne sais pas. Hein. Mais il envoie Acab et il lui dit « Monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de la pluie. » Acab monta manger et boire, c'est le verset 41. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel, se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre les genoux. Je ne sais pas si vous avez essayé de prier comme ça, mais ça coupe la respiration. Donc, je ne vous le conseille pas nécessairement. Mais bon, apparemment, lui, ça lui allait très bien. Donc, il prie avec intensité. Et comme il n'a pas envie de regarder la météo, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des nuages, il envoie son serviteur. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Waouh ! Pourtant, j'ai entendu, pourtant, j'étais sûre. Et il prie. Une fois. Élie dit 7 fois, retourne-y. Alors moi, j'admire ce serviteur. Hein. Une fois, 2 fois, ça passe. Après, ça commence à faire beaucoup. Hein. De se dire, oh là là, est-ce qu'il a vraiment entendu la voix de Dieu? C'est peut-être pas un vrai prophète. Et puis, délicat, hein, c'est délicat. Mais il continue à prier parce qu'il sait, il connaît son Dieu. Et je pense que le serviteur, s'il a obéi, c'est parce qu'il connaissait le Dieu d'Élie. Tu dis, ouais. Il voulait qu'on prie, ben on va continuer à prier. Et le serviteur monte, regarde, etc. Et puis finalement, la 7e fois, le serviteur dit « Ah, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer. Il est de la taille d'une paume de la main. » Donc c'était vraiment un petit nuage tout petit dans le ciel. Et il dit « Monte, dira Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » Alors oui, c'est important, on l'a vu avec les inondations, mais quand le sol est vraiment desséché, il absorbe plus l'eau. Et dans ces pays, on a vu ça aussi en Arizona, aux États-Unis, le lit des rivières souvent est à sec, où on y était en juillet, le lit des rivières est à sec, mais vous avez des gros panneaux, hein, c'est aux États-Unis, en tout cas je l'ai vu, je sais que c'est pareil hein, en Afrique du Nord, il y a des gros panneaux qui disent « en cas de pluie, ne restez pas, quittez les lieux rapidement ». Parce que la pluie arrive, elle ne s'infiltre pas dans le sol et elle remplit les cours d'eau qui gonflent et c'est des inondations. Et la vitesse aussi des flots peut emporter n'importe quoi, des voitures, etc. Donc il y a souvent des accidents et des problèmes d'inondation. Donc il fallait qu'il fasse vite. Il était tellement convaincu que la pluie allait être conséquente qu'il dit fais vite, attelle ton char et vas-y. Et là, on a l'impression qu'il y a une sorte de complicité quand même avec Akab. Akab écoute ses conseils, les choses. Je pense que dans son cœur, Élie a dû se dire, c'est rétabli. Il a compris. Oh, quelle joie pour un homme de Dieu de se dire, ah, Seigneur est vainqueur, il a compris qui est Dieu. C'est formidable. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Élie? Il court devant le char du roi. En quelques instants, le ciel devint noir de nuages. Le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisraël, donc c'est un petit peu 27 kilomètres. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisraël. Alors, pourquoi est-ce que Élie court devant le char d'Akab? Je me suis posé la question. En fait, c'était à l'époque un signe d'humilité, bien sûr, mais aussi de respect envers le roi. Et je pense qu'Élie était tellement heureux de voir que Akab avait probablement compris qu'il dit, mais moi, je suis pas... Il voulait montrer, mais je ne suis pas fâché avec le roi. Le roi n'est pas mon ennemi. Je reste dans le respect du roi. Et il court devant son char. Alors, si vous voulez en savoir plus... on a énormément de textes dans la Bible qui parlent de courir devant le char. Je les ai quelque part par là. Il y a le Cantique des Cantiques, il y a Esther, souviens. Aman a dû marcher devant le char de Mardoché, devant Mardoché qui était à cheval. Il n'était pas content. Mais voilà, il y a plusieurs textes comme ça, je vous les donnerai après. Ce texte nous dit plusieurs choses. La persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière, et c'est difficile. Et là, je rejoins ce que disait Oscar ce matin. Ce n'est pas évident d'être persévérant dans la prière. Il y a un effort réel à faire pour être persévérant dans la prière. Mais ça marche. Ceci étant, la foi chrétienne, ce n'est pas ni « Adieu va » ou « Inch'Allah », ni un distributeur automatique. Parce que la prière, voilà, ça demande de la persévérance. Et puisque Dieu avait décidé de faire tomber la pluie, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il prie? Ça, c'est la question que les enfants posent parfois. Puisque Dieu avait dit, tu pries, la pluie tombe. Pourquoi il est obligé d'insister 7 fois de suite? Alors, il y a plusieurs raisons. Je crois que Dieu cherche dans nos cœurs une collaboration, une confiance, une relation. La prière, la relation à Dieu, c'est pas j'appuie sur un bouton et pouf, je reçois. C'est pas un distributeur automatique. Et c'est pas non plus, à Dieu va, attends, Inch'Allah. Il a dit, il n'a qu'à le faire. Vous voyez, entre ces deux extrêmes, il y a cette relation avec... Parce que ce que Dieu cherche, en fait, c'est une relation avec l'homme. Et c'est ça qui est difficile. La foi chrétienne, elle est facile, sauf qu'elle est exigeante au niveau de la relation. Et ça fait réfléchir. Et puis ce petit nuage, ça vous dit quelque chose, ce petit nuage. Ce petit nuage. Combien de fois on prie pour quelque chose? Là, je suis sûre que ça va vous parler aux uns et aux autres. Et puis, on voit juste un début de tout petit exaucement. On se dit, oh, mais pour Élie, c'était clair. Le petit nuage est là, il va y en avoir d'autres. Les petits commencements. Et j'aime beaucoup ce verset de la Bible qui dit que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Et si vous regardez bien, toutes les grandes œuvres qui aujourd'hui sont répandues, soit dans le monde, soit dans les mouvements chrétiens, elles ont souvent commencé tout petit, petit, petit. Le réveil de Pentecôte, qui a quand même créé des centaines d'églises en France en très peu de temps, hein, puisque ma mère est venue au Seigneur à cette période-là, donc à partir des années 30, 40, un petit peu avant la guerre. Ça a commencé par qui? Deux petites dames suisses qui avaient un petit bar sans alcool au Havre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un missionnaire qui... Elles accueillaient les missionnaires qui repartaient pour l'Afrique. À l'époque, ils partaient en bateau. Et elles les accueillaient, elles leur apprenaient le français. Français-suisse, j'imagine. Septembre, etc. Et il y avait un certain monsieur Scott qui est venu d'Angleterre, qui apprenait le français. Et puis, il a dit, est-ce que je peux faire une réunion? Elles ont dit, oui, on en a toutes les semaines, etc. Dans le petit bar sans alcool. Et puis, ce jour-là, il y a une dame qui a été guérie d'un cancer. C'était la femme d'un capitaine de bateau qui était connu au Havre, dans la bonne société havraise. Le lendemain, il y avait plein de monde à la réunion. Elle avait tous ses certificats. C'était une vraie guérison. Et voilà, ça a commencé comme ça. Puis, ça s'est répandu. Très, 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 très vite. Ça a commencé par deux petites dames. Deux petites missionnaires suisses. Les cours Alpha, un avocat chrétien qui a commencé avec un petit cours biblique pour les nouveaux. Maintenant, les cours Alpha, si vous allez à Londres, il y a des panneaux sur les autobus. C'est un cours pour connaître la Bible, tout simple. On l'a fait ici dans l'église. L'armée du salut, j'en ai parlé la semaine dernière. La Croix-Rouge, même Emmaüs. Et puis plus près de nous, la GER. J'ai appris qu'il y a des jeunes qui vont aller travailler, faire leur stage, c'est super. La Gerbe, moi je me souviens d'un tout petit bureau qui était à peine plus grand que ce cube-là, dans lequel il y avait quelques cartons et quelques étagères. Et puis, à côté des bureaux de la Gerbe, on a envie de faire une ressourcerie. Une ressourcerie. Si je regardais, il y avait quelques cartons, quelques étagères, mais ils ont prié. Ah, ça c'est des gens qui savent prier. Ils ont prié, ils ont prié. Hein, ils savent prier, Marie-France, à la Gerbe. Et puis, quand je suis revenue quelques temps après, la pièce, elle était bien garnie. Et puis, quelques temps après, c'était dans une autre pièce. Puis, quand je suis revenue, c'était... Non, avant le bâtiment, il y avait tous les trucs derrière, le grand hangar derrière, qui était bien aménagé, décoré et tout. Et puis, quelques temps après, ils m'ont dit, on prie, là, il y a un bâtiment qui va se libérer juste en face. Oh, moi, j'étais là, je dis, comment ils osent? Comment ils vont faire? Comment ils vont payer ça? Oh, oui, c'est très cher. Puis quelques temps après, on l'a eu. On a eu les fonds, on a pu l'avoir. J'ai suivi ça, en fait, depuis le petit bureau. Je suis allée régulièrement. Et j'ai admiré leur foi et leur détermination. Il y avait ce petit nuage, là, cette petite pièce, qui était le début d'une bénédiction. Aujourd'hui, il y a combien, une trentaine, une quarantaine de gens qui sont bénéfices de gens qui trouvent du travail, etc., qui sont réinsérés grâce à la Gerbe. Ils ont, ah oui, bah tu vois, je suis encore en dessous de la vérité. Donc, vous verrez tout ça. Allez à la gerbe et posez-leur des questions. Vous verrez, le magazine est là. Les petits commencements. Dieu ne méprise pas les petits commencements. Et nous, on a tendance à dire, oh, non, Dieu ne méprise pas les petits commencements. Élie ne doute pas. Vous voyez, il dit, vas-y, prends ton char, vas-y, il va pleuvoir. Il est tellement sûr de lui. Il court devant le char d'Akab, ça j'en ai parlé. Donc les textes, si vous voulez les voir, c'est Cantique des Cantiques 3-7, 1 Roi 15, 2 Samuel 15, Esther 6, 1 Samuel 17. Vous voyez, il y a beaucoup de références sur le fait de courir devant le char du roi, qui était un signe de respect. Parce que tout ce que voulait Élie, c'était que le cœur du roi soit gagné pour Dieu. Alors, je vais lire en entier le chapitre 19, parce que là, on va découvrir un autre Élie. Jusqu'à présent, on est plein d'admiration. Est-ce que il y a ce verset qui dit, hein, qu'il n'y a pas eu sur la terre d'homme plus grand qu'Élie, c'est ça ? Mais pourtant, c'était un homme de la même nature que nous. Donc, on est proche. Et là, de toute façon, là, on va être beaucoup plus proche. Hein. Croyez-moi, avec le chapitre 19, on va être beaucoup plus proche d'Élie. Donc, ils courent devant le char de roi, ils arrivent à Jézreel. Akab rapporta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait été tué, et dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Oi, oi, oi. Alors là, il n'est pas chouette, Akab. Hein. C'est là qu'on revoit encore cette... Alors, ce n'est pas de la duplicité, c'est... Je dis que la moitié des choses. C'est vrai qu'Élie avait fait beaucoup de choses, c'est vrai qu'il avait fait tuer les prophètes de Baal, mais... Le feu de Dieu qui était descendu sur l'autel, les prophètes qui avaient prié, il ne s'était rien passé. Apparemment, il n'en parle pas. Ah, il avait peur. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. » Ou alors d'autres traductions disent « Que les dieux me fassent ceci et cela. » C'est un serment. « Et si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Et là, il y a un verset, un petit bout de verset là qui dit « Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. » Évidemment, Jézabel est en colère. Hein. C'était ses meilleurs amis, c'était les prêtres du Dieu qu'elle adorait. Elle était furieuse, on peut la comprendre, mais elle dit qu'elle va le tuer. Et dans la Bible, dans la version Septante de la Bible, elle dit... Ce n'est pas rapporté dans cette version-là. Vous savez, il y a plusieurs textes comme ça qui sont dans certaines versions et qui ne sont pas dans d'autres. Mais c'est intéressant parce qu'elle dit « Si tu es Élie, moi je suis Jézabel. » Attention. Une incroyable confiance en elle. Elle ne s'avoue pas vaincue. Et c'est un peu « Si tu me cherches, tu vas me trouver. » Bon, et alors Élie, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Il a vu le feu de Dieu tomber sur l'autel. Mais elle entreprend résolument le combat contre Élie. Contre le Dieu d'Élie, avec un serment. On peut se poser la question, au fait, pourquoi est-ce qu'elle ne l'arrête pas tout de suite pour le tuer ? Mais elle réfléchit, Jézabel, elle est maligne. Hein. La popularité d'Élie est grande dans le pays, en Israël. Hein. Son histoire avec la veuve, la résurrection de son fils, etc. Vous savez, ces histoires-là, ça marchait mieux dans ce temps-là, avec le téléphone arabe, hein, qu'avec les médias modernes. Elle préfère l'obliger à fuir. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle veut, c'est le discréditer. Qu'il ne soit plus aussi populaire. Elle veut l'écarter plutôt que de le tuer. C'est plus efficace. Parce que si elle le tue, elle en fera un héros. Donc elle veut l'écarter. Est-ce qu'elle attribue la puissance de Dieu, qui est en Élie, à des pouvoirs magiques qui seraient supérieurs aux siens ? Peut-être, vu son arrière-plan. Est-ce qu'elle craint un soulèvement du peuple ? Toujours est-il que Élie, en fuite, va perdre de l'influence. Et il le sait bien, Élie. Mais il est pris d'une peur épouvantable. Elle se lève, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Alors, une chose est claire pour Élie, la démonstration de la souveraineté et de la puissance de l'Éternel n'a pas impressionné. Elle a impressionné Akab, mais elle n'a pas impressionné Jézabel. Ça ne l'a pas amené à la repentance. Et ça, quand il courait devant le char du roi, je suis presque sûre, alors après vous verrez ce que vous en pensez, mais presque sûre qu'il s'est dit, ça y est, Akab a vu de ses yeux la puissance de l'Éternel. Il va l'expliquer à Jézabel et Jézabel va accepter. C'est pour ça qu'il était enthousiaste. Et vous savez, quand on est au sommet, ça fait plus on est haut, plus ça fait mal de tomber. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Il était au top, Dieu s'était manifesté, c'était grandiose, le peuple allait enfin choisir. Le roi avait vu, il s'entendait bien avec le roi, il court devant son char par respect, il va expliquer à Jézabel, ça y est, la gloire de Dieu va descendre. Et puis quand il a ce messager, là il tombe du 100e étage. Ça lui a fait un choc. Surtout que Akab n'a rien dit. Et vous savez, c'est terrible. Quand on sert Dieu comme ça, et qu'on a comme seule priorité que le peuple retourne vers son Dieu, c'est terrible de ne pas être soutenu, de se retrouver seul. Là, il se retrouve seul. Akab qui a tout vu, il dit rien. Sa femme envoie ce message, il n'envoie pas de contre-ordre. Et vu la faiblesse d'Akab, la menace de Jézabel était à prendre au sérieux. Akab n'a rien dit. Il n'a rien fait pour protéger le prophète de Dieu. Et voyant cela, oui, il tire les conséquences. Du côté de la royauté, rien n'a changé. Et ça, c'est dur. Il comprend qu'il n'y a aucun secours humain à attendre. Du coup, il ne pense plus qu'à sauver sa vie. Littéralement, c'est écrit « Il alla là où son âme le menait ». Pas son esprit, hein, son âme, ses sentiments. Élie est dans l'amertume. Et là, il agit sans même demander. D'habitude, vous vous souvenez, hein, il suivait toujours les directives de Dieu. Là, non. Et alors, on ne va pas le montrer du doigt. Hein, parce que là, on se reconnaît bien quand même. Hein, quand les choses deviennent vraiment difficiles. Voyant cela, j'ai fait le constat. Élie partit pour sauver sa vie. Alors, il part dans le royaume de Juda, hors de la zone d'influence de Jézabel. Les relations sont bonnes entre les deux pays, comme je vous ai dit, mais pas au point d'extrader le prophète. Hein. Donc, il se sentait un petit peu plus en sécurité, mais ça ne suffisait pas. Cette fois-ci, il ne suit pas un ordre de Dieu. Un Dieu qui l'avait toujours nourri, toujours protégé, qui lui avait fait faire des tas de miracles. Il n'attend pas les directives de Dieu, il agit de sa propre initiative, il a peur et il perd sa confiance en Dieu. Le problème de la peur, et là je pense que vous me retrouvez là, je pense que vous retrouvez Élie, hein. Quand on a peur, on perd notre confiance en Dieu. Et puis bon, on est tous sensibles à la peur. Je veux dire, qu'est-ce qui peut dire « moi j'ai jamais peur » Non, hélas. Et là on se sent déjà beaucoup plus proche d'Élie, hein. Plus proche que quand le feu du ciel tombe sur l'autel. Alors, comment comprendre qu'il en soit arrivé là? Alors, je vous ai dit, après l'intervention puissante de Dieu au Carmel, il croyait sans doute qu'une réforme spirituelle énorme allait se produire, que Jézabel allait se tourner vers Dieu et que le peuple allait abandonner le culte du Dieu des nuages. La contre-attaque de Jézabel lui enlève ses dernières forces spirituelles. Il n'a plus envie de se battre. Un commentateur biblique écrit ceci. J'ai pris cette citation parce qu'elle m'a beaucoup parlé. « Devant les épreuves, surtout si elles sont répétées dans une situation grave, le croyant est en danger de céder à la fatigue et de quitter sa place. » Alors, je pense qu'on a tous, à un moment ou à l'autre, passé par là. Quand la fatigue est là, dans une situation grave et que les épreuves sont répétées, qu'est-ce qu'on a envie de tout abandonner ? On est tous pareils, là. Et Éline, c'est là qu'on voit que c'est un homme de la même nature que nous. Il va aussi loin que possible. Il fuit. Tout ce qu'il pouvait faire a été fait. Son œuvre lui paraît achevée. Je ne peux plus rien faire. Mais complètement stérile. Je ne suis arrivé à rien. Eh bien, on ne peut pas lui dire le contraire. Hein. Et il va chercher la solitude et la mort. Alors, pas le suicide, mais « Seigneur, reprends ma vie ». Il va même laisser son serviteur à Beersheba, en chemin. Il fait un jour de marche dans le désert, tout seul, puis il s'assied, accablé de tristesse et d'épuisement au pied d'un genêt. Combien de fois dans notre vie, on s'est assis en disant « j'en peux plus, c'est assez ». Le but de ma vie, c'était le retour d'Israël à son Dieu. Eh bien, il n'a pas été atteint. Il n'y a plus rien à faire ici-bas, autant que Dieu reprenne ma vie. Parce que c'était sa motivation, c'était son appel que le peuple revienne à Dieu. Il n'avait pas d'intérêt personnel dans la balance. Il voulait juste que le peuple revienne à son Dieu. Dieu l'avait appelé pour ça, il avait tout fait pour ça. C'est assez, c'est assez. Je ne suis pas meilleur que mes pères, il va dire. Ah, je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est-à-dire ceux qui m'ont précédé. Il ne parle pas des pères physiques. Hein. Ben parce qu'il croyait faire mieux que les précédents. Bien sûr, ben heureusement, sinon s'il n'avait pas cru, il n'aurait rien fait. Son obéissance, son courage, sa confiance en Dieu avaient été exemplaires. Qu'est-ce qu'on pouvait lui reprocher jusque-là? Il avait vraiment obéi, fait confiance, même s'il n'avait rien à manger, etc., etc. Mais il constate son impuissance, autant que les précédents. Bah oui, je n'ai pas fait mieux que les précédents. Pourquoi vivre pour voir plus longtemps le peuple de Dieu ne faire que ce qui lui semblait bon, sans que je puisse rien y faire? Ça donnait à toutes sortes d'idolâtries. Vous savez, ça devait être terrible pour lui. Et pour comprendre une pareille douleur, il faut se rappeler qu'il s'agit du cœur d'un homme qui a fait de la cause et de la gloire de Dieu l'absolue priorité de sa vie. Il ne croit plus à la victoire de Dieu, il se retire du conflit. Et il avait d'autres gens dans la Bible qui ont vécu la même chose. Pensez à Jonas, Moïse, Job, David par certains moments, hein, Jérémie et l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 1, 8, je pourrais le lire. Eh bien, il s'endort au pied de son genêt et il espère que Dieu le reprenne dans son sommeil. Sympa comme idée. Qui n'a pas eu envie de ça un jour ou l'autre? Élie a vu la puissance de Dieu, le feu du ciel tomber sur l'autel, la pluie en réponse à la prière. Il se sentait fort en Dieu. Mais là, il fait une autre expérience dans sa vie qui était indispensable pour lui. C'est de reconnaître sa faiblesse. Oscar parlait de s'arrêter. Ben voilà. C'est une forme d'arrêt. Il se couche sous un genêt et il attend, il dort. Il doit faire l'expérience de sa faiblesse et de sa solitude. Personne n'osera le protéger. Et ça, c'est peut-être une des choses les pires quand on est dans les difficultés et qu'on se retrouve seul face aux difficultés. C'est pour ça que c'est important la communion fraternelle. C'est pour ça que c'est important de prier les uns pour les autres, de porter les fardeaux les uns des autres. Jésus a insisté là-dessus. Parce qu'il sait que l'être humain, quand il est seul, il est extrêmement vulnérable. Et même si on n'a que l'impression, parce qu'il y avait 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou, hein, mais l'impression d'être seul contre tous, l'impression que tout le monde est contre, c'est terrible. Et c'est une épreuve de notre confiance en Dieu aussi, de dire, bah, Seigneur, je n'ai que toi et je marcherai avec toi quand même. C'est extrêmement difficile. Et voyez, Élie, bah, il n'a pas honte, il se couche sous son genêt et dit, bon, Dieu a travaillé au travers de lui. Et vous savez maintenant ce qui se passe, c'est que Dieu va travailler sur lui. Parce qu'être conscient de sa faiblesse, c'est important. Élie passe par une phase de dépression, dormir, ne plus rien voir, rien entendre. Et je pense qu'on peut tous, à un moment de notre vie, se reconnaître là-dedans, se replier sur soi. Avoir un sentiment d'infériorité, d'échec, ça c'est terrible, surtout quand on sert Dieu. Peur de la vie, des pensées de mort, une fatigue, une peur énorme, un sentiment de solitude, l'incapacité à se défendre efficacement devant les agressions. Tout ça, il le ressentait fortement. Et on peut facilement s'identifier dans différentes occasions de la vie. Élie, dans sa dépression, il va même exagérer les aspects négatifs de sa situation. Et au verset 18, Dieu lui ouvre les yeux. Il dit, maintenant, il y a quand même 7000 hommes hein, qui n'ont pas fléchi le genou. Mais il n'y pense pas à ça. Et on n'y pense pas à ça dans ces moments-là. Ces moments de ce que j'appelle de solitude extrême, c'est qu'on a vraiment le sentiment que personne ne peut nous aider, personne ne peut nous défendre. Heureusement, on a Dieu. Alors bien sûr, il y a des causes physiques et ça, il ne faut pas les ignorer. Il a fait des efforts énormes. Alors on va résumer rapidement, une activité considérable, et puis des causes psychiques qui vont avec le physique. Hein. Il a affronté le roi. fallait oser. Il a organisé la rencontre au Carmel. Il était seul face à 450 prophètes de Baal. Il a rebâti l'autel, ça c'était physique. Il a fait exécuter les prophètes de Baal. Il est remonté au Carmel, la Bible dit. Alors, il fallait remonter la montagne. Il a couru devant le char du roi 27 kilomètres. Bon, c'est vrai que les chars dans le sable, ils vont pas vite, mais quand même. Il a entendu les menaces de Jézabel. Et puis, il s'enfuit à pied vers le sud du pays. Bon, il y a de quoi être fatigué, hein, franchement. Alors maintenant, ce qui est important, c'est comment Dieu va agir envers Élie. Eh bien d'abord, première chose, et là, ça fait tellement bien d'avoir un Dieu comme ça. Première chose que Dieu fait, vous avez remarqué? Il le laisse dormir. Ah, quel Dieu compatissant. Il le laisse dormir. On pourrait imaginer l'Éternel, Dieu d'Israël, lui dire Élie, qu'est-ce que c'est que ça? Tu perds ta confiance? Allez, remets-toi. Non, il le laisse dormir. Et là, je trouve que Dieu est merveilleux. Dans les moments où on est découragé comme ça, où on est tout seul face à ces difficultés, Dieu nous laisse nous reposer. Ça, c'est formidable. Il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de reproche, il n'y a rien. Il le laisse dormir. Puis le matin, il lui fait son petit déjeuner. La Bible nous dit qu'un ange vient lui donner à manger et à boire. Les pierres sont encore chaudes, donc il faisait des galettes sur des pierres brûlantes. Apparemment, il a fait la cuisine et il lui a donné à manger. Il ne lui parle pas de son manque de foi, du besoin de se repentir, de prier. Il prend soin, donc il le laisse dormir. Après, il prend soin de lui, il lui donne à manger et à boire. Ça, c'est un Dieu rempli d'amour. Il nous aime tellement que même quand on est au fond du trou, il nous comprend et il ne nous accuse pas. Donc si vous vous sentez au fond du trou, rappelez-vous toujours, il y en a au moins une personne qui prend soin de vous, qui respecte, qui vous laisse vous reposer et qui va pourvoir à vous fortifier. Deux fois, il va avoir son petit déjeuner tout près. Curieux, la première fois, il a l'air de rien dire. Hein. Il mange, il boit et il se rendort. Pas de reproche. Deuxième fois, allez, mange, bois. Et là, il lui dit simplement, mange, bois, parce que la route va être longue. Et Dieu lui demande de faire un trajet vers Horeb. Il va marcher 40 jours et 40 nuits. Il y a plus de 300 kilomètres hein, dans le désert. Donc, il ne va pas courir non plus. Mais ça vous dit quelque chose, 40 jours et 40 nuits? C'est un temps d'épreuve dans la Bible, chaque fois qu'il y a 40. Bon, alors on ne fait pas de la numérologie, mais bon, il y a des choses évidentes, hein. 1, 7, 3 et 40. 40, c'est un temps d'épreuve. Bien sûr, ça nous fait penser à Jésus, au peuple qui a tourné 40 ans dans le désert, à Moïse. Un temps d'épreuve, mais c'est un temps de recueillement. Et là, je rejoins ce que disait Oscar, c'est un temps où on s'arrête, même s'il marche, mais il s'arrête. C'est un temps de méditation, de prière. C'est un temps où il va développer sa relation à Dieu. Et ce temps-là va révéler ce qu'il a au fond de lui, sa faiblesse. Jusqu'à présent, c'était un homme fort, où Dieu pouvait travailler au travers de lui. Et là, Dieu va lui montrer, ben oui, on est capable d'incrédulité en ces cas-là, on est capable de peur. Alors Élie va se connaître mieux, il va pouvoir rencontrer Dieu et recevoir son message. Et maintenant, je vais reprendre le texte, donc, je vous l'ai raconté, maintenant on va le lire. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Ça d'ailleurs, ce n'est pas la meilleure chose qu'il avait à faire. Parce qu'il y avait une personne qui aurait pu rester avec lui, c'est son serviteur. Il s'en sépare. Je dis, à quoi bon ? Quant à lui, il marche toute une journée dans le désert. Il s'assied sous un genêt, demande la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Je n'ai pas réussi mieux que Moïse ou d'autres. Il se couche et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Élie regarda, et ça j'aime bien. Élie, vous l'imaginez en train de dormir, il ouvre un œil. Ah, bon. Il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mange, il boit, il se recouche. L'ange de l'Éternel va une deuxième fois. Ça parle, hein. Dieu, qu'est-ce qu'il est bon. Il vient une première fois, le gars, il bouge pas. Ça fait rien, il vient une deuxième fois. Il le touche et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Ah, voyez, Dieu sait de quoi on a besoin. Et il se leva mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il y a un côté surnaturel quand même, hein, il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Donc c'est l'équivalent, Horeb ou Sinaï, c'est pareil, c'est là où avaient été donnés les 10 commandements. Hein. Là, il entra dans une grotte et y passa la nuit. Or la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ah, ça j'aime ça. C'était pareil avec Adam et Ève. Ils venaient de faire la plus grosse bêtise de leur vie. Et moi, je ne sais pas, j'aurais été à la place de Dieu, mais je leur ai passé un de ces savons. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Où es-tu ? Où es-tu, Adam ? Et là, c'est pareil. Que fais-tu ici, Élie ? Ah. Vous voyez, quand parfois on a une image du Dieu, père fouettard et tout. Non. Élie est au fond du trou. Il le laisse dormir. Il lui donne à manger une fois, deux fois. Il lui conseille de prendre la route vers le Sinaï. Et puis là, dans la grotte, il lui parle. Que fais-tu, Élie ? Il répondit, ah, j'aime bien la réponse d'Élie, c'est ce qu'on aurait fait à sa place. Hein. J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis restée, moi seule. Là, il exagère un petit peu. Je suis restée, moi seule, et ils cherchent à m'ôter la vie. Il avait de quoi dire, hein ? Vous avez vu ? Dieu l'a laissé dire, parce que Dieu écoute. Il sait, quand on a le cœur lourd, il écoute. Et c'est quelquefois des choses qu'on ne peut pas forcément dire à personne. Mais avec lui, on peut. Parce qu'il n'en fait pas un jugement. Il écoute, il comprend. Et ça, c'est extraordinaire, je trouve. C'est un de mes textes préférés dans la Bible. Parce que l'Éternel dit, à la suite de ça, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. L'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, et ça c'est important, devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Vous savez, l'orage en montagne, c'est détestable. Hein. Moi j'aime bien les orages ici, mais en montagne, ça me fait peur quand même. C'est terrible, hein, ça résonne et tout. Et si en plus les rochers tombent, bon. Et après le vent, alors oui, brisait les rochers. L'Éternel n'était pas, ça c'est important, l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Et là, l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, ah, ça c'est un des plus beaux textes de la Bible. Il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, ah, il n'avait pas trop bougé avec le feu, le vent, le tremblement de terre, mais le murmure doux et léger. Il eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau. Une réaction tout à fait normale. Et là, il sort. Et jusqu'à présent, il était resté dans sa grotte. Il n'était pas sorti. Il se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ses paroles. Dieu lui a parlé directement. « Que fais-tu, Élie ?» Eh bien, Élie, il a répondu. « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. Les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis restée moi seule et cherche à m'ôter la vie. » Ah, il ne se dégonfle pas, hein ? Il en a gros sur la patate, hein, vraiment, comme on dit. Hein ? Ça lui fait mal. Et on voit bien que c'est ça son problème. Il n'a pas réussi à ramener le peuple à Dieu. C'est ça son problème. Et puis maintenant, il cherche même à m'ôter la vie. Mais Dieu était dans le murmure doux et léger. Et qu'est-ce qu'il essaie de lui faire comprendre ? On va terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'il essaie de lui faire comprendre, Dieu ? Oh, toi, Élie, t'as pu permettre que le feu du ciel descende sur l'autel, consume tout. Tu t'attendais à ce que ça continue comme ça ? Que les manifestations spectaculaires de Dieu continuent sur Acab, sur Jézabel, sur le peuple, et qu'il y ait un grand réveil, et que tout le monde revienne vers moi, etc. Par la force, par le fait que les gens sont impressionnés. Hein, le feu, le tremblement de terre, le vent. Mais Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est dans le murmure doux et léger. Ces choses-là se produisent. Dieu peut les produire, mais il n'est pas dedans. Et ça, il y a une grosse différence. J'ai eu du mal, là, en travaillant ce texte, à comprendre ça. Je l'ai retourné un peu dans tous les sens, et puis en lisant quelques commentaires, c'est venu. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il peut les produire, mais où est Dieu ? Dans le murmure doux et léger. dans cette parole qui convainc de péché, dans cette parole qui guérit le cœur brisé, dans cette parole qui console, dans cette parole qui relève, qui est capable de dire « oui, tu as péché, mais viens et suis-moi ». Dans cette parole qui est à la femme adultère, cette parole à la femme cananéenne, c'est là qu'il est Dieu. Oh, bien sûr, parfois, il va utiliser du spectaculaire. C'est des choses qu'il produit, mais il n'est pas dedans. Et j'ai connu une personne qui était très amateur d'un Dieu de jugement. Et ça me faisait toujours un peu mal, parce que ce n'est pas le Dieu que je connais, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Mais c'est vrai qu'il est capable de juger, mais ce n'est pas lui. Il peut produire un jugement, il peut produire le feu, il peut produire le vent ou le tremblement de terre hein, dans nos vies. Mais là où on le rencontre vraiment, ce n'est pas dans ces choses-là. C'est dans le murmure doux et léger. Le feu va brûler le péché, va brûler ce qui est impur en nous. Mais Dieu n'est pas le feu. Le vent peut démolir notre orgueil, mais Dieu n'est pas le vent. Il peut utiliser un tremblement de terre pour nous faire comprendre sa sainteté, mais Dieu est dans le murmure doux et léger. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'était difficile pour moi de saisir ça. Il peut produire ces choses, mais là où on le rencontre, c'est dans le murmure doux et léger. Que fais-tu, Élie? Et je crois qu'il nous pose la question. Moi, je l'ai vécu comme ça quand j'ai travaillé ce texte. Où en es-tu? Que fais-tu? Es-tu découragé? En as-tu par-dessus la tête? Considères-tu que tu n'as rien fait de mieux que les précédents? Dans ta famille, dans ton travail, dans ton église? Peu importe. Que fais-tu? Où tu en es? Et puis, après, on va pas le lire parce que c'est trop tard, mais il lui dit, ta mission n'est pas finie. Tu vas oindre Azaël, roi de Syrie. Tu vas oindre Jéhu. Et c'est Jéhu qui va tuer Jézabel d'ailleurs. Hein. Il va faire tuer Jézabel. Et puis, tu vas nommer Élisée et tu vas le former. Pendant des années, Élisée va travailler avec Élie. Puis le jour où Élie partira au ciel, Élisée va continuer l'œuvre d'Élie. Il avait encore une mission à faire. Et il s'est relevé et il a fait sa mission. Et si vous êtes découragé aujourd'hui, si vous avez l'impression que je réussis pas mieux que les autres, ça peut être d'autres choses. On passe tous par ces moments-là, ces moments de grande solitude, d'énorme solitude où on se dit, ça sert à quoi? Écoutez, et là je prie pour moi, pour vous tous, qu'on puisse entendre le murmure doux et léger. Que fais-tu? Pas de reproche. Seigneur, je te prie pour chacun de nous ce matin, chacun de nous qui passons par des moments difficiles où peut-être on a travaillé pour toi, mais maintenant tu travailles sur nous, comme Élie. On a besoin d'entendre ton murmure doux et léger. Seigneur, te prions que dans les jours et les semaines qui viennent, on puisse entendre ce murmure doux et léger de ton amour, de ta compassion, de ton pardon, de ta vie en nous. Seigneur, s'il te plaît, on veut te connaître parce que tu es dans ce murmure doux et léger. Même si nous avons passé par le feu, nous avons passé par des tremblements de terre, nous avons passé par le vent, dans nos familles, dans notre travail, dans l'église ou ailleurs, on a besoin d'entendre maintenant qui tu es, ce murmure doux et léger, de pardon, de compassion. Seigneur, fais-le s'il te plaît pour chacun de nous ce matin et chacun de ceux qui nous écoutent. Amen.